Alors pour ce jour solennel, Philippe Nemo me demandait une conférence, sachant un peu parler, étant professeur de lettres, je ne me suis pas dérobé. Et malgré ma fatigue, parce que je viens de voir des étudiants pendant 2 heures, j'ai foncé sur un sujet qui m'est cher, à savoir le comique, et si possible le gros comique, les gros rires, les rires gras, les fous rires que l'on trouve au XVIIe siècle. C'est un aspect méconnu du grand siècle. Sa gaieté, une gaieté de rue, un peu épaisse, un peu grasse en un mot. La méconnaissance des modernes en ce sujet tient, me semble-t-il, à la tradition académique. On nous parle beaucoup dans les classes du comique. Alors nous savons qu'il est 2 sortes de comiques. Les théoriciens opposent le comique vertical au comique horizontal. Le comique vertical est celui qui nous est le plus familier. On se moque de quelqu'un. On rit au détriment d'une prétendue valeur. On rit aux dépens d'une couche sociale, d'une personnalité, etc. Donc on rit contre quelqu'un. Ce faisant, on essaie de rectifier son comportement, l'on dénonce une antivaleur, une laideur, une aberration, un vice, une tare, que sais-je. C'est, nous dit-on, le comique de Molière. Alors on le dit et on le répète, parce que l'on est fidèle à la tradition de l'Antiquité qui voulait que les œuvres d'art, et que notamment le théâtre, et que notamment le théâtre comique, certes, fussent des divertissements, mais aussi qu'ils instruisissent. Hein, il faut absolument que, quand on rit, il y ait une pincée de moralité dans notre rire. Alors quand on rit aux dépens d'une laideur, d'un défaut, d'un ridicule, c'est admirable. Et assister à un spectacle de Molière, eh bien, nous apprenons à voir Molière, à quel point il est fâcheux d'être atrabilaire, d'être avaricieux, d'être prétentieux, d'être snob, précieux, que sais-je. Bon. C'est ce que l'on nous dit. Alors, en revanche, à ce comique vertical s'oppose un comique horizontal. C'est-à-dire que l'on ne rit pas de quelque chose, l'on rit tout court, l'on s'amuse. Comment vas-tu, yacht poil, et toi, la matelas ? C'est une plaisanterie idiote qui est censée faire sourire. Donc, vous voyez, le jeu de mots, le quiproquo, le pataquès, bon, tout cela sont des formes gratuites de comique. Quand on rit pour faire la fête, quand on rit pour s'amuser, tous ensemble, on s'offre une pinte de rigolade, bon, cela n'a aucune signification morale. Comme c'est amoral, c'est pas immoral, mais comme c'est amoral, les gens sérieux, c'est-à-dire les philosophes et les pédagogues, ne s'en occupent guère. Et on préfère dans les classes étudier les pièces de Molière qui, nous dit-on, ont un intérêt moral, un intérêt social, un intérêt philosophique, le misanthrope, les femmes savantes, le Tartuffe, l'école des femmes. C'est bien plus souvent étudié que Georges Dandin, que bon, Les Amants magnifiques, c'est une autre affaire, que Psyché. Psyché de Corneille Molière est une ravissante comédie un peu féerique, dans une langue incomparable. De quoi y est-il question ? Des amours débutantes et de la curiosité. Alors évidemment, Psyché fut curieuse. Donc on retrouverait par ce biais une implication morale qui serait susceptible d'intéresser les doctes et les pédagogues. Mais la gratuité de certains spectacles purement comiques n'a pas bonne réputation dans l'université, ni bien sûr dans les classes. Donc on réduit le plus souvent au XVIIe siècle, quand on s'en occupe, c'est ma partie, on réduit le comique à des œuvres de dénonciation, de satire, à des pièces de théâtre qui donneraient à penser, qui donneraient à rêver. Bon, c'est dommage pour ces formes innocentes, très vives, et qui, en ce qui me concerne, m'exaltent. Ce comique gratuit, absolument gratuit. L'on aimait rire pour rire. Au XVIIe siècle, l'on n'avait pas honte. C'était peut-être signe de santé, mais les historiens de la littérature n'ont guère fait porter leur curiosité sur cette sorte-là de gaieté. Le discours critique au XVIIe siècle sur le rire est assez décevant. C'est que nos ancêtres ne pouvaient évidemment, comme nous, manier la partie de la poétique d'Aristote intéressant la comédie, puisque cette partie est perdue. Donc on en est réduit, pour la comédie, à déduire des préceptes aristotéliciens sur la tragédie des indications pouvant intéresser le théâtre comique. Cela, n'est-ce pas, n'est pas très satisfaisant. D'autre part, nous n'avions du théâtre comique de l'Antiquité que Terence, qui est peu comique, très peu comique, c'est fâcheux, mais qui écrit un latin parfait. On a voulu comparer Molière à Terence. Heureusement, il est plus drôle, beaucoup plus drôle que Terence. Il y a Plaute, mais Plaute, ce n'est pas du bon latin et c'est souvent grossier. C'est fâcheux pour les honnêtes gens du XVIIe siècle. Et du côté des Grecs, nous n'avions aucune... Au XVIIe siècle, il n'y avait aucune pièce de théâtre de Ménandre qui fût complète. Et déjà, dans l'Antiquité, on disait que Ménandre était un écrivain très pur, mais peu drôle. Bon, c'est César, car on sait cela par Suétone, qui a affirmé, n'est-ce pas, que dans un parallèle classique entre Ménandre et Terence, que le seul qui faisait rire, c'était ni l'un ni l'autre, puisque tous les deux étaient de fins écrivains, mais il manquait de vis comica. L'expression de vis comica, la force comique, César en serait l'auteur. Et puis il y a Aristophane. Mais Aristophane est quelquefois d'une grossièreté inouïe. Donc, les honnêtes gens du XVIIe siècle hésiter à se baigner dans ce comique-là, et puis c'était en grec. Et comme vous le savez, peu de nos ancêtres au XVIIe siècle savaient le grec. Néanmoins, vous trouvez au XVIIe siècle constamment des œuvres de toutes sortes témoignant d'un bon gros comique parfaitement innocent, indifférent à toute question morale, censé nous dérider, nous dilater la rate, allant dans le sens d'une bonne santé. Alors, l'on est bien sûr dans la tradition rabelaisienne et dans la tradition érasmienne, forcément. Pour cette petite conférence, j'ai essayé de butiner dans quelques œuvres. Donc, je suis venu avec un peu ma bibliothèque. Du côté du théâtre, au XVIIe siècle, ce que beaucoup d'historiens de la littérature oublient. Depuis la restauration du théâtre sous Henri IV, un spectacle théâtral comprend toujours trois parties. Vous avez une sorte de préambule comique avec un annonceur, un comédien, en général un comédien réputé pour ses prestations comiques. Un comédien venait battre l'estrade devant le public pour calmer le public, le discipliner un peu, l'intéresser à la suite du spectacle. Il annonçait, si besoin était, n'est-ce pas, le thème de l'œuvre sérieuse, tragédie, tragicomédie, grande comédie en vers et en cinq actes. Donc il annonçait cela, et pour se gagner le public, il multipliait les quolibets et les plaisanteries. Quand un visiteur de marque était passé dans le théâtre, on se permettait quelques moqueries. À son égard, il nous reste quelques-uns de ces préambules de l'hôtel de Bourgogne. Ce devait être très amusant, car c'était souvent très grossier. Avec les farceurs de l'hôtel de Bourgogne, Ce théâtre était 6 rue Montorgueil, près de Saint-Eustache. Vous aviez là d'excellents comédiens jouant la tragédie, mais 3 spécialistes des pièces comiques qui étaient Turlupin, Gros Guillaume et Gauthier Garguille. Le trio des 3 farceurs, bon, qui étaient accoutrés un peu à l'italienne, qui étaient des acrobates en même temps que des comédiens. Alors bien sûr, avec une défroque tragique, ils allaient jouer la tragédie. Mais on les utilisait pour lancer le spectacle. Et il nous reste des prologues où il est question, n'est-ce pas, de tout ce que vous pouvez imaginer de pire en matière d'obscénité, de scatologie. Le public s'amusait, commençait à réagir collectivement, riait, on riait tous ensemble, et le public était donc ainsi disposé à recevoir collectivement le noble spectacle qui allait suivre. Chasse des nobles spectacles qui allaient suivre. Il y avait entre chaque acte des entr'actes, nécessaires pour allumer les chandelles des lustres, bien sûr, mais au terme de la grande représentation, vous aviez toujours, en appendice, une farce à la française. Molière, la troupe de Molière, la comédie française créée en 82, n'a pas manqué à cette tradition, la farce était courte. Bon, alors c'était très intéressant pour le public, le spectacle était long, on en avait pour son argent, mais les places étaient très coûteuses. Oui, au XVIIe siècle, une place de théâtre debout, un haut parterre, c'est à peu près 10 jours de travail d'un ouvrier non spécialisé. Inutile de vous dire que le peuple n'allait pas au théâtre. Bon. Alors, les troupes errantes qui faisaient la quête, qui jouaient en plein air, là, peut-être que la populace pouvait assister à des spectacles. Mais à Paris, les places étaient très coûteuses. Ça changera au XVIIIe siècle, tant mieux. Le public, après l'entracte, assister à une farce, avait la satisfaction de voir les mêmes comédiens qui venaient de s'illustrer dans une tragédie jouer des rôles ridiculissimes, d'une part. Et ces farces, selon la tradition française, étaient d'une grossièreté inouïe. Émile Magne a relaté, m'a résumé la farce du retrait. La farce du retrait. Vous avez bien sûr un mari, une femme et un amant. Le retrait désigne la garde-robe. Mais ce n'était pas seulement l'endroit où l'on gardait les robes, c'était l'endroit où on s'acquittait de fonctions naturelles. Alors, le mari part. La femme reçoit aussitôt son amant. Et il commence devant le public à forniquer sur le lit. Le mari fait du bruit, revient. L'amant se précipite dans le retrait. Le mari commence à besogner sa femme. Exercice de son devoir conjugal. Bon. Mais soudainement, il est pris d'un besoin et va au retrait. L'amant va se cacher dans la fosse. Bon. Le mari s'acquitte de ses fonctions que vous imaginez, revient. L'amant, souillé de merde, sort du retrait, s'agite et fait du bruit. Le mari croit que c'est un fantôme, fuit. La femme nettoie hâtivement l'amant, l'amant décampe, le mari revient pour poursuivre sa besogne conjugale sur sa femme. Voilà ce que l'on jouait devant le public parisien à l'époque de Molière. Ces farces étaient, bon, celles-ci eschatologiques, indécentes. Vous n'avez, n'est-ce pas, que des moines paillards, des maris cocus, des femmes qui ont le feu où vous imaginez, des valets benets, voleurs, menteurs, gloutons. Bon, c'est un théâtre très rudimentaire. Les scénarios étaient connus, tout le monde applaudissait. Et les femmes bien nées avaient un peu honte d'assister avec ravissement à de tels spectacles, et elles se masquaient, comme si on n'allait pas les reconnaître. Bon, on oublie toujours, quand on nous parle du théâtre classique, de ce noble théâtre avec Racine et Corneille, on oublie toujours de nous mentionner ces farces, ce répertoire de farces françaises. Vous aviez aussi, dans les prologues, certains des farces, des farceurs de l'hôtel de Bourgogne, comme Gauthier Garguille, chantonnaient des poèmes sur des airs à la mode que la salle tout entière reprenait. J'ai là quelques chansons de Gauthier Garguille. C'est sous Louis XIII. Alors pensez, n'est-ce pas, que messieurs de l'Académie française qui allaient au théâtre étaient témoins de ces textes. Ce fut édité par Édouard Fournier au siècle dernier. Ce sont des chansons qui toutes sont cochonnes. Alors Philippe Nemo m'avait demandé d'être décent. J'ai choisi les moindres. Bon. Voilà ce que nos ancêtres chantaient au théâtre. Un jour allant voir mamie, de chier me prit envie. Je m'écorchais tout le trou. Jamais en jour de ma vie je ne chirais que debout. Je m'assis sur une ortie. Au cul me vint la vessie. Je me piquais par le bout. Jamais en jour de ma vie je ne chirais que debout. Soufflez-y sans qu'on en rie. Ah, que plus je ne crie, je serai guéri du tout. Jamais en jour de ma vie, je ne chierai que debout. Ou lèche-mi, je t'en prie. Tout homme qui pète et chie n'a pas torche-cul toujours. Jamais en toute ma vie, je ne chierai que debout. Voilà ce qu'on a chanté, avec un refrain. J'ai pris les moindres. En m'en revenant de Gascogne, je passais par le Poitou. Je rencontrai un pauvre homme qui gelait dessous un chou. Je le vis, ma commère, je le vis dur comme un caillou. C'est une femme qui parle et qui chante. Je rencontrai un pauvre homme qui gelait dessous des choux. J'eus peur que la nuit venue, il ne fût mangé des loups. Je le vis, ma commère, je le vis dur comme un caillou. J'ai peur que la nuit venue, il ne fût mangé des loups. Je le mis sous mes aisselles et le chargeai sur mon cou. Je le vis, ma commère, je le vis dur comme un caillou. Je le mis sous mes aisselles et le chargeai sur mon cou. Quand il fut dedans ma chambre, il avait perdu le pouls. Je le vis, ma commère, je le vis dur comme un caillou. Quand il fut dedans ma chambre, il avait perdu le pouls. Je l'approche de mon âtre. Je le mis sur mes genoux. Je le vis, ma commère, je le vis dur comme un caillou. Je l'approche de mon âtre et le mis sur mes genoux. Je le frotte et le manie. Tant que je le mis debout, je le vis, ma commère, je le vis dur comme un caillou, je le frotte et le manie, tant que je le mis debout, nous chûmes tous deux ensemble, lui dessus et moi dessous, je le vis, ma commère, nous chûmes tous deux ensemble, lui dessous et moi dessous, pour le payer de mes peines, me baisa 5 ou 6 coups, je le vis, ma commère, je le vis dur comme un caillou. Voilà comment on ranime un malheureux gelé, d'après la chanson. Je demandais à la vieille quel chaperon elle voulait. La vieille m'a répondu d'un beau velours, s'il y en avait. Vous en aurez, vieille, vous en aurez donc. Requinquez-vous, vieille, requinquez-vous donc. Que ne vous requinquez-vous, vieille, que ne vous requinquez-vous donc. C'était des exercices de diction. Je demandais à la vieille quel collet elle voulait. La vieille m'a répondu de beaux quintins, s'il y en avait. Vous en aurez, vieille, et patati et patata. Je demandais à la vieille quelle jupe elle voulait. La vieille m'a répondu d'un beau satin, s'il y en avait. Vous en aurez, vieille. Je demandais à la vieille quelle musique elle voulait. La vieille m'a répondu d'un flageolet, s'il y en avait. Vous en aurez. Je demandais à la vieille quelle viande elle voulait. La vieille m'a répondu d'une andouille, s'il y en avait. Vous en aurez, vieille. Vous en aurez. Bon, dans ces chansons de Gauthier Garguille, il est très souvent question de femmes insatiables. Bon. Là, je n'ose pas, c'est un chant à base d'artichaut et de navet pour donner quelque animation à deux parties de l'anatomie. Bon, ça ne va pas. C'est dégoûtant. Cela vient du Moyen-Âge. La jeune fille très mal mariée avec un vieillard impuissant. Pour échauffer mon vieillard, j'ai beau chercher des ruses. J'ai toujours du vieux penard de nouvelles excuses. Sa carcasse est immobile en ce que je vais cherchant. Mais s'il veut vivre inutile, je n'en veux pas faire autant, dit la jeune mariée. Tous ses membres à demi-morts font une anatomie, c'est-à-dire ce que l'on étudie dans les facultés de médecine. C'est qu'il a l'humeur au corps. Ce qu'il a d'humeur au corps s'en va par sa roupie. Le reste, sec et débile, n'a rien de ce qui plaît tant. Mais s'il veut vivre inutile, je n'en veux pas faire autant. Quand nous sommes entre deux draps, tous deux couchés ensemble, bien qu'il soit entre mes bras, Il a si froid qu'il tremble. Il me dit, Margot, mamie, dormons car il est temps. Mais s'il veut vivre inutile, je n'en veux pas faire autant. Dans son fâcheux entretien, sans cesse il me sermonne pour vivre en femme de bien qu'il ne faut voir personne. Sa remontrance inutile n'a rien de ce qu'il prétend, car s'il veut vivre inutile, je n'en veux pas faire autant. Toujours sa jalouse humeur en contre moi s'irrite, tant l'impuissant a de peur des cornes qu'il mérite. Car bien qu'il soit malhabile, encore juge-t-il pourtant que s'il veut vivre inutile, je n'en veux pas faire autant. Bon, on devine qu'elle sera prompte à prendre un amant. Mariée. Bon. Voilà ce dont on était au théâtre capable. Du côté des grands dramaturges, j'ai là quelques pièces. Qui ne sont absolument pas explicables par les règles d'Aristote, qui n'ont aucune qualité morale, qui sont d'incomparables morceaux de théâtre faits pour tout simplement faire rire. Corneille est l'auteur d'une ravissante comédie qui était très chère au cœur de Peggy, Le Menteur. Il commença par des comédies, dont certaines sont en effet drôles. Mais dans Le Menteur, il a, en virtuose, confié à son héros, le menteur, qui est un jeune homme aventureux qui ment tout le temps. On ne sait pas très bien la raison. Alors les psychologues sont déçus, forcément, on ne peut pas raffiner en psychologie. Ce personnage, venu de province à Paris, pour se faire valoir, ment à tout bout de champ. C'est le menteur. Fit-il pas mieux de dire la vérité quelquefois, puisqu'à la fin, il va se trouver marié avec une femme qu'il n'a pas souhaité épouser. Il est vrai qu'elle ressemble un peu à la femme qu'il convoitait, mais une simple ressemblance ne suffit pas. On apprendra dans la comédie suivante de Corneille, la suite du menteur, qu'il ne s'est pas présenté le jour du mariage. Il est parti, il a quitté Paris pour Lyon, où les aventures avec des femmes à qui il dit oui et non, vont se réitérer. Nous sommes au début de cette pièce de Corneille. Le menteur et le héros Dorante rencontrent son vieux père. Et son vieux père, triomphant, vient lui dire qu'il lui a trouvé une épouse et qu'il le marie. J'étais voulu choisir moi-même une maîtresse, honnête, belle, riche, le fils. Ah, pour la bien choisir, mon père, donnez-vous un peu plus de loisirs. Géronte, je la connais assez, Clarisse est belle et sage, autant que dans Paris, il en soit de son âge. Son père de tout temps est mon plus grand ami, et l'affaire est conclue. Alors, le fils n'a pas du tout envie de se marier. Ah, monsieur, j'en frémis d'un fardeau si pesant accablé ma jeunesse. Fais ce que je t'ordonne, dit le père. À partir du fils, il faut jouer d'adresse. Quoi, monsieur ? À présent qu'il faut dans les combats acquérir quelques noms et signaler mon bras, avant qu'être au hasard qu'un autre bras t'immole, je veux dans ma maison avoir qui m'en console, je veux qu'un petit-fils puisse y tenir ton rang, soutenir ma vieillesse et réparer mon sang, en un mot, je le veux. C'est une raison quand même dirimante. Vous êtes inflexible. Fais ce que je te dis, Dorante. Mais il est impossible. Impossible et comment ? Dorante. Souffrez qu'aux yeux de tous, pour obtenir pardon, j'embrasse vos genoux, je suis quoi ? Dans Poitiers, parle donc et te lève. Je suis donc marié, puisqu'il faut que j'achève. « Sans mon consentement, dit le père, on m'a violenté, dit le fils. Vous ferez tout casser par votre autorité, mais nous fûmes tous deux forcés à l'y mener par la fatalité la plus inopinée. Ah, si vous le saviez, dis, ne me cache rien. » Dorante, elle est de fort bon lieu, mon père, et pour son bien, s'il n'est du tout si grand que votre humeur... Sachons à cela près, puisque ces choses faites, elle se nomme Orphis et son père Armédon. Géronte, je n'ai jamais oui ni l'un ni l'autre nom, mais poursuis. Alors voilà le récit entièrement fictif du fils. Et c'est brillant. Et on regrette que Corneille n'ait pas écrit davantage encore de comédies. Je la vis presque comme un arrivé. Une âme de rocher ne s'en fut pas sauvée, tant elle avait d'appât, et tant son œil vainqueur, par une douce force, assujettit mon cœur. Je cherchais donc chez elle à faire connaissance, et les soins obligeants de ma persévérance surplairent de sorte à cet objet charmant que j'en fus en 6 mois autant aimé qu'amant. Je reçus des faveurs secrètes mais honnêtes, et j'étendis si loin mes petites conquêtes qu'en son quartier souvent je me coulais sans bruit pour causer avec elle une part de la nuit. Un soir que je venais de monter dans sa chambre, ce fut, s'il m'en souvient, le 2 de septembre. Oui, ce fut ce jour-là que je fus attrapé. Ce soir même, son père en ville avait soupé. Il monte à son retour. Il frappe à la porte. Elle, et un enjambement extraordinaire, frappe à la porte. Elle, transie, pâlit, rougit, me cache en sa ruelle, ouvre enfin. Et d'abord, qu'elle eut d'esprit et d'art. Elle se jette au cou de ce pauvre vieillard, dérobe en l'embrassant son désordre à sa vue. Elle est en désordre, c'est que leur causerie n'a pas dû être si honnête que cela, s'il est en désordre. Il se sied. Il lui dit qu'il veut l'avoir pourvue, lui propose un parti qu'on lui venait d'offrir. Jugez combien mon cœur avait l'heure à souffrir. Par sa réponse à droite, elle le sut si bien faire que sans m'inquiéter, elle plut à son père. Ce discours ennuyeux enfin se termina. Le bonhomme partait quand ma montre sonna. Et lui se retournant vers sa fille étonnée, « Depuis quand cette montre? Et qui vous l'a donnée ?»« Acaste, mon cousin, me la vient d'envoyer, dit-elle, et veut ici la faire nettoyer, n'ayant point d'horloger au lieu de sa demeure. Elle a déjà sonné 2 fois en un quart d'heure. « Donnez-la-moi, dit-il, j'en prendrai mieux le soin. Alors pour me la prendre, elle vient en mon coin, je la lui donne en main, mais voyez ma disgrâce. Avec mon pistolet, le cordon s'embarrasse, fait marcher le déclic, le feu prend, le coup part. Jugez de notre trouble, à ce triste hasard, elle tombe par terre, et moi je la crus morte. Le père épouvanté gagne aussitôt la porte, il appelle au secours, il crie à l'assassin. Son fils et 2 valets me coupent le chemin, furieux de ma perte, et combattant de rage, au milieu de tous 3 je me faisais passage. Quand un autre malheur de nouveau me perdit, mon épée en ma main en 3 morceaux rompit. Désarmé, je recule et rentre. Alors Orphise, de sa frayeur première aucunement remise, sait prendre un temps si juste en son reste d'effroi qu'elle pousse la porte et s'enferme avec moi. Soudain, nous entassons pour défense nouvelle, banc, table, coffre, lit et jusqu'aux escabelles, nous nous barricadons. Et dans ce premier feu, nous croyons gagner tout à différer un peu. Mais comme à ce rempart l'un et l'autre travaillent, d'une chambre voisine, on perce la muraille. Alors, me voyant pris, il fallut composer. Géronte père, c'est-à-dire en français qu'il fallut épouser. Bon, voyez le brio extraordinaire de ce récit. Alors, la chose est encore plus amusante que le père Géronte vient de proposer au fils précisément la jeune fille qu'il a rencontrée aux Tuileries et qu'il souhaite épouser. Donc, ce mensonge se retourne contre lui. Mais si tous les menteurs mentaient aussi bien, ça vaudrait la peine de mentir.